Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Donald Trump est-il un personnage de roman, une figure de fiction? La séquence télévisée et photographique qui a suivi la mort de Abu Bakr al-Baghdadi, c'était il y a une dizaine de jours, et sa médiatisation par le président américain nous ont rappelé combien, 3 ans après son élection, ce personnage était hors norme dans la politique états-unienne. Son phrasé, sa gestuelle, l'usage intensif qu'il a fait des réseaux sociaux et en particulier de Twitter, tranche avec la retenue qu'on imagine nécessaire à la fonction suprême. Pour autant, celui qui fut une vedette de la télé-réalité pourrait-il devenir un personnage de roman ou un héros de fiction? Quelques heures après la remise des prix Goncourt et Renaudot, le temps du débat pose la question à une politologue, Marie-Cécile Nave, qui est chercheuse à l'IRIS et autrice de Trump, la revanche de l'homme blanc chez Textuel, c'était il y a 2 ans. Deux romancières, Joyce Sormand. Bonsoir Joyce Sormand. Et bonsoir à vous Karine Thuil. Votre dernier roman, Karine Thuil, Les choses humaines, commence par une scène à la Maison Blanche et se termine quasiment par une autre scène autour du personnage de Trump, et également avec nous la fondatrice et la directrice générale du festival de séries Sérimania, Laurence Herzberg. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Abu Bakr al-Baghdadi est mort. C'était un homme malade et dépravé. Et maintenant il est mort. Baghdadi était vicieux et violent. Et il a eu une mort vicieuse et violente, comme un lâche, en courant et en pleurant. J'ai regardé l'opération avec le général Miller, le vice-président Mike Pence et d'autres dans la salle de crise, et on regardait ça, et c'était vraiment parfait. C'était comme regarder un film.
Bonsoir Marie-Cécile Nave.
Bonsoir.
C'est un discours qui est ressorti de quel type de référence cinématographique? Parce que au tout départ, quand on écoute Abu al-Baghdadi est mort, on a un peu l'impression d'un shérif qui vient annoncer à la population d'une ville de l'Ouest que le principal criminel est décédé. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans cette façon de prononcer?
Cet extrait est très intéressant parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Trump, c'est quelqu'un qui se met toujours au centre du récit qu'il veut imposer à tout le monde. Et avec un brouillage continu entre la réalité et la fiction, et certaines caractéristiques comme le fait que le monde est divisé entre les méchants et les bons, les gagnants et les perdants, et que lui observe un peu tout ça de manière détachée, surplombante, mais avec la caractéristique d'être quelqu'un de toujours combatif, qui n'a pas peur de l'adversité, qui sait toujours définir qui sont ses ennemis. Alors ça varie un peu en fonction du séquençage que lui-même impose de sa propre politique, hein, du feuilletonnage, du teasing qu'il crée. Et dans cet exemple-là, on avait ce moment de teasing puisque la veille, avant cette conférence de presse, il fait un tweet, 12 heures avant la conférence de presse, en disant quelque chose d'énorme est en train de se produire. Et donc, laissant à tous les médias du monde entier
le soin
d'interpréter, voire de surinterpréter, même si c'était un faux suspense. Mais ça, il est coutumier du fait, quand il parle du dictateur nord-coréen et de la limitation des missiles nucléaires, il dit « Oui, on va se rencontrer, on verra ce qu'on verra. We will see what will happen. On verra. » Quand il veut négocier avec les talibans, il dit « Peut-être qu'on arrivera à quelque chose, peut-être pas. » On est toujours dans le feuilletonnage, dans le teasing, dans le jeu de l'émotion aussi, de la peur, de la crainte, parfois de l'intimidation. Et puis un registre lexical qui est de l'ordre de l'agressivité, de l'insulte, de la grossièreté, comme on l'a vu là. Et encore, vous n'avez pas passé les extraits les plus trash.
Oui, il parlait effectivement du chien qui était al-Baghdadi, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous appelez chez lui, Marie-Cécile Nave, la communication incantatoire?
La communication incantatoire, c'est le fait d'espérer ou de compter sur, parce que c'est performatif, que les mots et les images aussi, l'iconographie, vont produire des effets sur le réel, vont produire des effets sur son électorat, sur l'électorat qui est finalement peut-être assez réduit, parce qu'il a un taux d'opinion aujourd'hui dans le pays qui est très faible, hein, autour de 40%. Mais les derniers sondages qui viennent de sortir aujourd'hui le donnent encore gagnant dans les états clés qui l'ont fait gagner en 2016. Donc son but, c'est de galvaniser un électorat pour qu'il aille vraiment voter et qu'il adhère à son style. Et pas forcément toujours à son programme, qui est très flou, qui est encore plus flou qu'en 2016, mais à un style qui est très viriliste, combatif.
Masculiniste,
prédateur sur les uns et sur les autres, avec le storytelling d'une Amérique blanche, patriarcale, menacée de toutes parts,
anti-LGBT, etc.
sur elle-même. Ouais.
Karine Thuil, votre dernier roman, donc Les choses humaines, paru en cette rentrée, parle de tout autre chose, mais néanmoins met en scène un président américain, ou plutôt quelqu'un qui vient travailler à la Maison Blanche, une franco-américaine, au moment de l'affaire Clinton-Lewinsky. Et puis vous terminez tout cela en passant d'ailleurs par l'Élysée, parce qu'il y a une séquence clé qui se déroule à l'Élysée de remise de décoration. Par justement ce Trump à la toute fin de votre roman, ça veut donc dire que cet univers vous a été nécessaire pour créer les choses humaines, mais aussi parce qu'il y a aussi peut-être dans ces deux présidents, Clinton et Trump, une sorte de miroir autour de la question sexuelle, puisque la question sexuelle est au cœur de votre roman.
Oui, c'est leur rapport à la sexualité, aussi aux violences sexuelles. Donc à la fois l'affaire Clinton, puisque l'un des personnages de mon roman était stagiaire à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky et que Uma Abedin, qui est la femme qui était la plus proche collaboratrice de Hillary Clinton, mais aussi la femme de cet homme politique américain, Anthony Weiner, qui avait été impliqué dans un scandale sexuel. Et puis, il y a effectivement, après l'affaire MeToo, les réactions notamment alors de mon personnage et aussi de Monica Lewinsky qui s'était exprimée notamment dans Vanity Fair. Et puis on voit aussi les réactions de Trump à tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un rapport extrêmement choquant à ces histoires de violences sexuelles, de prédation, de sexualité comme instrument de pouvoir. Et c'est quand même un homme qui, en 2005, enfin, ils avaient exhumé cette vidéo.
Il n'y a pas très longtemps,
d'ailleurs. Voilà, les femmes, faut les prendre par la chatte. Et il semblerait qu'il n'ait même pas conscience de ce qu'il dit. En fait, il semble totalement désinhibé sur ces questions-là, notamment dans les questions de rapport aux femmes. Et d'ailleurs, sur les questions des violences sexuelles, il était clairement du côté des hommes, prenant position en disant qu'il y avait des abus quant à l'utilisation de cette parole. Donc c'est quand même... finalement, il n'a pas de limite et personne, finalement, ne l'arrête aussi.
Marie-Cécilina, puis Joy Sormand.
Oui, la nomination et le forcing qu'il a fait pour la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême l'année dernière, c'est vraiment la gifle envoyée à MeToo un an après le mouvement MeToo. Et tout ceci est fait à dessein.
Parce que Kavanaugh était justement pris dans une affaire de...
Oui, il est pris dans une voire plusieurs affaires de scandale sexuel, tentative de viol quand il était étudiant. Et puis le mode de défense... des sénateurs républicains et de Trump était vraiment axé sur un registre lexical autour de « les femmes sont folles, ce sont des hystériques ». Et l'idée, c'est de renforcer aussi, de conforter un pouvoir masculin et blanc à tous les postes importants de l'administration américaine.
Joy Sormand, quand on vous a posé la question et on vous a appelé pour participer à cette émission, vous nous avez dit oh, non, tout compte fait, c'est peut-être pas un véritable objet de roman parce que je ne sais pas quoi en faire en tant que romancière.
Je trouve que Trump, il incarne pour moi deux écueils énormes pour tout romancier, à savoir le spectaculaire et le pittoresque. Qui sont pour moi deux choses précisément, deux pentes extrêmement séduisantes et glissantes contre lesquelles il faut se prémunir. C'est-à-dire, alors après, ça dépend aussi des libidos, on va dire, littéraires des auteurs. Chacun, ouais. Moi, je suis plutôt une auteure du côté de Pérec, c'est-à-dire de l'infraordinaire, pour qui justement la difficulté de la littérature, c'est d'aller mettre en lumière la banalité, le minuscule, le quotidien, de faire d'un charpentier, d'une boulangère, un héros de roman, plutôt que de se tourner justement vers l'outrance, le grossier, le spectaculaire, qui.
Pas de chance avec Trump.
Oui, non, mais c'est-à-dire que voilà, non, mais donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment et c'est très bien que différentes érotiques littéraires puissent cohabiter. Mais c'est vrai que je le trouve extrêmement dangereux dans la mesure où il est tellement grotesque, il est tellement burlesque, il s'inscrit déjà dans une tradition qui est presque une tradition des fabliaux du Moyen-Âge ou alors du freak show un peu. Mm-hmm. Quand je l'entendais là tout à l'heure, je pensais, vous savez, aux baraques à monstres dans les cirques à la fin du 19e, début du 20e.
Jusqu'à Freaks de Todd Browning.
De Todd Browning qui agitait comme ça nos pulsions scopiques où on payait pour voir des enfants à tête de chien, des siamois, des femmes à barbe.
Et pas forcément pour voir la femme à barbe ou l'enfant à tête de chien à la Maison Blanche.
Non, mais en tout cas, Trump, j'ai l'impression, si vous voulez, que quand on l'entend parler, justement, finalement, l'indignation, le choc disparaît devant la puissance burlesque. Et que finalement, on est souvent beaucoup plus rigolard que indigné. Et c'est en ce sens-là qu'il faut être sacrément bien outillé pour arriver à dépasser ces sentiments-là, pour en faire un personnage de roman subtil.
Pas plus de 10 minutes sans Donald Trump dans l'émission d'aujourd'hui.
Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television.
He asked Russia to go get the emails. We're going to look into his finances. I said, where did that come from? He always talked about Russia.
Hey, Donnie. I love you, Donnie. For 35 years now, they call
Mr. President, sir.
I said, let's go to Iraq, sir.
Yes, I agree with this.
This speech should have been delivered 1 year from now, not now, damn it. Because they're going to grip together. They're going to say, you know, this guy's really laying for us.
Non, ça n'est pas un stand-up, Laurence Eisenberg. C'est véritablement le président des États-Unis. C'était à la convention donc des conservateurs américains en mars dernier. Au point même, d'ailleurs, on s'est posé la question de savoir si ça n'était pas une fake news. Vous savez, comme on peut trafiquer les paroles des hommes politiques et même leur visage. On s'est demandé si ça n'était pas le cas. Et Libération nous avait dit dans Fake News que non, ça n'était pas le cas. C'était véritablement ce qu'avait dit Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste des séries américaines? Ça va plutôt dans votre sens, puisque vous pensez qu'en fait, ça serait plutôt une parodie qui pourrait le mieux rendre Donald Trump.
En fait, les séries politiques, elles se divisent en deux parties. Une partie sont les séries politiques crédibles. Le plus bel exemple, c'est à la Maison Blanche, mais il y a aussi en France Baron Noir. Il y a eu aussi Borgen au Danemark, où on va coller au réel et faire rentrer le spectateur dans une analyse de ce que peut être le fonctionnement
du pouvoir.
Du pouvoir et d'une arène présidentielle. Et l'autre, ce sont les satires politiques et les comédies politiques. Si on prend un peu de recul par rapport à ces deux genres pour voir où Trump pourrait rentrer, c'est très clair qu'il peut pas rentrer dans le genre sérieux. Parce que là, ça marche pas, il peut pas,
il
à la télévision,
qu'il...
il est tellement outrancier, il est tellement au-delà. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, la fiction, elle a besoin de crédibilité. Et curieusement, Trump n'a pas de crédibilité, mais en fait, il est véridique, parce qu'il est là. Mais du coup, la fiction ne pourrait pas travailler, ou aurait du mal à travailler sur ce matériau de Trump, qui est déjà hors norme, hors de la réalité.
Vous voulez dire que le documentaire rendrait mieux? Un documentaire de Michael Moore ou d'un autre rendrait mieux Donald Trump qu'une fiction qui vous tenterait de le mimer.
Absolument, parce qu'il incarnerait son propre personnage, il serait à la limite son propre personnage de fiction, et ça serait possible. Ce qu'ont fait les Américains notamment, c'est que voyant qu'ils avaient du mal à s'en emparer sur la fiction, ils ont fait en revanche beaucoup d'émissions satiriques. Et l'émission d'Alex Baldwin, le Saturday Night Live Show. Et alors là, Trump, ça le met hystérique chaque fois. Une des poupées sur lesquelles il met des flèches, c'est Alex Baldwin le samedi, parce que c'est la meilleure manière de traiter Trump.
Il faut rappeler effectivement qu'Alex Baldwin a d'ailleurs une ressemblance un peu frappante avec Trump, qui s'est repris sa mèche blonde et que d'une certaine façon, effectivement, il l'incarne très bien, mais dans une outrance qui est proprement comique.
Il y en avait une autre d'ailleurs d'émission qui a disparu, c'était sur Showtime, c'était Cartoon President, oui. Où il incarnait aussi ça. Mais ce sont donc des émissions satiriques. Sur la fiction, c'est beaucoup plus compliqué à faire, parce que dans une fiction qui serait une fiction satirique ou une comédie, ça serait très drôle de voir le président des États-Unis qui décore son propre chien ou qui décore un chien. Et ça, c'est déjà fait.
Marie-Cécile Nave, c'est d'ailleurs étrange parce que on sait la capacité, et on la vante souvent d'ailleurs, de cet univers américain, et en particulier du cinéma américain ou des séries américaines, à s'emparer de leur propre histoire et à la mettre en scène. Propre histoire. D'ailleurs, l'histoire de Lincoln a été mise en scène par Spielberg soi-même. Donc, on voit bien que ça n'est pas un problème que d'aborder un personnage existant ou ayant existé pour pouvoir en faire un héros de fiction. Mais là, effectivement, c'est un peu compliqué.
Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste de fiction, mais j'en regarde et j'en lis beaucoup. Mais je me demande si ce n'est pas justement un défi pour les créateurs, mais un défi dans le bon sens, c'est-à-dire en les poussant. Comme il y a trois créatrices sur le plateau, je parle avec beaucoup de précaution, mais à pousser à aller vers autre chose que ce dont on a l'habitude. Et j'ajoute que Trump n'est pas un cas isolé. Trump, il fait des émules. Vous avez Bolsonaro qui est très largement sur le même registre.
On a vu sa petite vidéo de 20 minutes la semaine dernière, qui était absolument stupéfiante, où il s'est mis en colère contre les Brésiliens eux-mêmes et contre ceux qui l'avaient accusé d'être pris dans l'affaire de l'assassinat de Marielle Franco, et il a complètement perdu pied devant la caméra, volontairement d'une certaine façon, en devenant complètement fou devant la caméra.
Il reprend les codes, vous avez un Boris Johnson, vous avez un Matteo Salvini d'une certaine manière, qui plus peut-être dans une tradition de Berlusconi, donc il y en aura peut-être d'autres, en plus ils sont portés au pouvoir, ça fonctionne auprès d'un certain électorat, donc évidemment c'est d'abord les codes de la politique qui sont complètement bouleversés, ça nous interroge sur notre rapport à la démocratie, parce que tout ça c'est dans des démocraties. Et c'est véritablement un défi aux créateurs, hein, c'est sûr.
Joyce Sormand.
Pour rebondir sur ce que vous dites, en même temps, moi j'ai l'impression, en regardant Trump et en regardant les autres fous du roi de ce style, les Bolsonaro, etc., qu'ils disent quand même une vérité de l'homme politique, de l'homme ou de la femme politique. Ils disent une vérité de l'individu politique, au sens où finalement, Trump...
Une vérité qui aurait été cachée par les autres ?
Une vérité des affects qui président au goût du pouvoir de tout homme politique. C'est-à-dire que pour moi, Trump, il incarne vraiment l'affect politique. C'est-à-dire que le goût du pouvoir, une certaine immaturité, une certaine manipulation du mensonge, la mégalomanie, l'égocentrisme, etc., finalement... Tous ces sentiments, toutes ces émotions, tous ces affects, vous les retrouvez, alors je suis pas psychanalyste, hein, mais je pense que vous les retrouvez chez n'importe quel personnage politique, c'est-à-dire chez n'importe quel individu qui a le goût du pouvoir, parce que c'est ce qui définit quand même un personnage politique. Donc Trump, en ce sens-là, pour moi, il est très réaliste aussi, parce que il dit exactement, justement sans filtre, sans opacité, de manière très claire, très directe, il dit ce que c'est profondément que l'affect politique. Et voilà. En ce sens-là, il pourrait être un personnage de roman, je me contredis, c'est intéressant.
Mais c'est vrai que chez les hommes politiques, il y a quand même le sens du contrôle. Alors que lui, il paraît totalement hors de contrôle. Et c'est ce qui le rend d'ailleurs intéressant comme personnage de roman. Il y avait une interview un entretien entre François Bunel et Tom Wolfe. Et à l'époque, Tom Wolfe lui avait dit heureusement qu'on a eu Trump, parce que pour un romancier, c'est formidable. Il va dire une connerie par jour, parce qu'il est totalement imprévisible. Et pour un romancier, le meilleur personnage, c'est finalement quelqu'un de totalement imprévisible. Et c'est vrai qu'il y a chez lui ce goût pour le dérapage. Enfin, parfois, on est même étonné, sur Twitter notamment, par ses prises de position, par ses réflexions. Alors, on dit souvent, finalement, il n'agit pas en homme politique, il ne sait pas se contrôler. Et c'est aussi ce qui le rend si fascinant et si intéressant à explorer pour un romancier.
Laurence Herzberg.
Alors, juste pour aller dans votre sens sur les hommes politiques, l'attrait du pouvoir, il y a eu une série politique comme ça, drôle, américaine, VIP, avec Julia Louis-Dreyfus, c'est ça, enfin, à peu près, sur le personnage d'une femme, d'une présidente des États-Unis qui était aussi hors norme, avec beaucoup d'exagération, qui faisait plein de gaffes et qui disait aussi à tout le monde ses quatre vérités, qui a marché extrêmement bien. Mais la différence entre elle et Trump, c'est qu'elle reste un personnage attachant, que malgré toutes ces outrecuidances, malgré tous ces excès, malgré tout ce qu'elle va faire à l'écran, on a envie quand même d'être attaché, on s'attache un peu à ce personnage. La difficulté pour Trump, personnage de fiction à l'écran, c'est qu'il n'est pas du tout attachant. C'est qu'il n'est pas du tout attachant. Il est même plutôt repoussoir.
Sauf pour son électorat.
Il a ses fans. Hein,
il a ses fans. Mais c'est ça.
C'est vrai, mais dans une fiction.
On pense comme des intellectuels démocrates.
Et
c'est
bien
ça,
sûr.
C'est ce qui va encore repasser.
Et peut-être européen, effectivement.
New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. A concrete metropolis of unparalleled strength and purpose. That drives the business world. People can't even walk the streets because they never know when the world they're gonna meet for that deal.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un extrait de la bande-annonce de The Apprentice, qui était donc l'émission de Donald Trump à partir de 2004. Il en était l'animateur et le producteur exécutif. Et puis For the Love of Money, c'était la chanson du générique de cette émission. Il faut rappeler que les candidats de The Apprentice s'affrontaient pour obtenir un poste dans le groupe de Trump, donc, et qu'ils étaient éliminés du jeu par Donald Trump soi-même. Il y a donc un passage par la télé-réalité. Est-ce que c'est important, Marie-Cécile Nave et Joyce Solomon, que la télé soit derrière et que l'usage de la télé soit déjà intégré complètement par le personnage de Donald Trump?
C'est majeur, parce qu'il s'est fait connaître au grand public par cette émission, par des petites apparitions ici ou là dans des fictions, mais c'est cette émission qui le rend connu au grand public. C'est pas en tant que promoteur immobilier, même s'il était parfois en couverture de tabloïdes pour différents scandales sexuels déjà. Et donc, il en a maîtrisé tous les codes. Il les ressort aujourd'hui. Alors, il y a aussi les codes de la série, quand il se met en scène en héros de House of Cards, en disant « Winter is coming » avec cette grande affiche qu'il met dans son bureau et qu'il met sur Twitter, on ne sait pas de quoi il parle. Il y a toujours un teasing un peu mystérieux, mais il a complètement absorbé, maîtrisé tous les codes de la télé-réalité. Et c'est pour ça que le brouillage entre réalité et fiction, c'est une de ses forces vraiment majeures, parce que l'effet, c'est qu'on ne le prend pas au sérieux. Pendant la campagne de 2016, le Huffington Post a traité le cas Trump, le candidat Trump, dans les pages divertissement. C'est vraiment dans les dernières semaines qu'ils l'ont mis dans les pages politiques. Et le fait de ne pas le prendre au sérieux, c'est vraiment sa force.
J'aurais sûrement justement cette question. C'est extrêmement intéressant d'être passé par la télévision et passé pour un clown d'une certaine façon, parce que son émission était une émission véritablement de divertissement, avant de devenir le président des États-Unis.
Oui, mais c'est pour ça qu'on parlait. Enfin, je parlais tout à l'heure de pulsions scopiques ou de freak show. C'est vrai que c'est un être beaucoup plus de l'image que du papier. Et voilà, on peut parler longtemps de son incarnation. En fait, il est moins un personnage de roman qu'un acteur. C'est surtout un grand acteur avec un grand physique. C'est quand même d'abord un physique, c'est-à-dire une incarnation, une façon de parler, une façon d'articuler. Et c'est pour ça aussi qu'il est, pour moi, plus difficile à faire passer dans la fiction romanesque, c'est-à-dire dans le personnage de papier. C'est que moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'en réalité, on ne voit jamais précisément le physique des personnages dans un roman. Vous avez beau, pendant 10 pages, décrire un nez, la couleur d'une peau, la texture des cheveux, des postures, on les voit jamais vraiment, ces silhouettes. Elles sont toujours esquissées. C'est pas là où la littérature est la plus forte. On le sait très bien que le cinéma, c'est l'art de l'incarnation et pas la littérature. La littérature, elle va passer par des émotions, des idées, etc. Donc, Trump, il est fait pour l'image. Il est moins fait pour le papier, à mon avis.
Karine Thuil, vous êtes d'accord avec cette question et par cette maîtrise de l'image, justement, qu'il a su donner à sa propre carrière?
Son physique, il y a aussi toute sa gestuelle, tout son corps. Enfin, physiquement, ça, je pense que ça serait intéressant à décrire quand même dans un roman. Son rapport aux femmes, à la sexualité, ça aussi, ça révèle beaucoup. Et puis, il y a cette mise en scène de l'argent aussi, qui est très importante chez lui, parce que pendant des années, il a quand même posé avec ses différentes femmes et ses enfants dans des lieux. Alors, il y avait toujours de l'or partout. Et il est aussi arrivé au pouvoir, finalement, parce qu'il a représenté cet emblème de la réussite. Et ça aussi, c'est intéressant. Je pense que des auteurs qui, hélas, hélas, ne peuvent plus le faire aujourd'hui, mais Tom Wolfe ou Philip Roth auraient pu faire quelque chose de grandiose s'ils en avaient eu la possibilité avec un personnage comme Trump. Mais c'est vrai qu'après, comme disait très bien Joy tout à l'heure, le risque, c'est quand même la caricature, parce qu'il est tellement excessif, il est presque burlesque, donc ça serait un personnage tragicomique assez fort finalement, mais pour un romancier français, non, ça serait un défi sans doute trop impossible à relever.
Et puis, il y a tout de même autre chose, c'est ce jeu autour de la vérité et du mensonge qui est absolument incroyable, parce que voilà quelqu'un qui n'a pas peur de mentir, qui n'a jamais eu peur de mentir, comme d'autres personnages, mais lui, il a la tête d'une très grande nation, et cette question du mensonge, ça peut être au cœur d'un roman qui reprendrait les leçons d'Orson Welles dans F for Fake ou Vérité et mensonge, qui est donc cette leçon que effectivement la réalité est troublante au point qu'on peut ne pas la croire.
Et surtout son rapport aussi avec les journalistes, cette façon de dire ce journal ment, mais en citant de très grands médias. Donc il fait passer pour faux la vérité et inversement. Donc lui-même joue énormément avec les codes de la fiction et la réalité. Et puis il est un peu dans cette théorie du complot. Hein, on vous ment, moi je suis celui qui vous dit la vérité. Et je pense qu'il remporte aussi les suffrages avec cette façon de penser.
Ça n'est pas d'ailleurs une erreur que d'avoir voulu voir en lui une sorte d'incarnation, parce que c'est un roman tellement génial qu'au bout du compte on le relit de façon différente toutes les décennies, du Orwell, du Big Brother, etc. Parce que de 1984, parce que effectivement il serait là tout puissant derrière les médias qu'il peut insulter, et d'autres disent ça serait plutôt le meilleur des mondes de Huxley au bout du compte, parce que il bombarde d'informations, ça n'est pas le manque d'informations qui est présent à l'intérieur de son travail, c'est plutôt au contraire le trop plein d'informations au point qu'on ne sait plus s'y retrouver.
Marie-Cécile. Oui, il le fait exprès, c'est-à-dire que ça lui permet de dicter l'agenda médiatique, puisqu'on est quand même tous observateurs, observatrices de Trump.
Mais d'ailleurs, on en parle.
Contraints de commenter les petites phrases, l'iconographie, les insultes, etc. Et pendant ce temps-là, l'agenda politique est déroulé. Par exemple, ces derniers jours, il y a eu des mesures contre les droits des homosexuels à adopter des enfants. Il y a des choses qui sont faites aussi pour donner plus de liberté religieuse aux soignants dans leur refus d'administrer certains soins si c'est contre leurs opinions religieuses. Ça, c'était l'année dernière, enfin, il y a 2 ans. Et donc, des mesures contre l'immigration légale aussi. Enfin, tout ceci se déroule presque sans que les projecteurs médiatiques soient braqués dessus. Mais je voulais juste dire un mot, mais peut-être je le dirai tout à l'heure.
Vas-y.
Il faut toujours considérer Trump par rapport à son obsession de faire le contraire de Barack Obama. Barack Obama, c'est un homme de lettres qui, 2 fois par an, publie la liste de ses 10 ou 20 romans, séries préférées. Et Trump, il sait tout ça, bien sûr. Il veut toujours s'inscrire en faux par rapport à ça, avec un mépris affiché pour la culture livresque, pour les intellectuels, entre guillemets, de la côte Est, passés par les universités de la Ivy League, comme c'est le cas d'Obama. Et donc, donner à voir un personnage beaucoup plus populaire, proche du peuple, auquel il peut s'adresser directement via Twitter dans une sorte de démocratie plébiscitaire fantasmée. Et il faut toujours le voir aussi par rapport à son obsession de faire le contraire de son prédécesseur.
Ça veut dire que si une des deux romancières ici présentes écrivait un roman traduit un jour en anglais sur lui-même, il ne le lirait pas.
Il le ferait lire et quelqu'un lui ferait des fiches.
Laurence Herzberg.
Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il se met en scène, il fait ses scènes. En fait, le traitement dans la fiction serait de pousser les scènes jusqu'au bout. C'est ça qu'on pourrait faire dans la fiction. On a déjà la caricature, le personnage est lui-même un personnage...
Là, on est dans un atelier d'écriture de série.
Oui, on est dans un atelier d'écriture. Le personnage, il existe. La moumoute ou la mèche, etc. Voix... effectivement, c'est une vaste question. Donc, en fait, ce qui pourrait être faire l'objet d'une série satirique politique, c'est-à-dire sur un format de comédie de 30 minutes... Parce que comme on est dans le sketch, dans le gag, il faudrait qu'on soit sur un format court. Il faudrait qu'en fait les dialogues soient ciselés. On se demande toujours qui a écrit, qui est le dialoguiste de Trump. En fait, c'est lui qui écrit ses propres dialogues, évidemment. Mais ça, pour une comédie politique, c'est tout est dans le dialogue. Et il faut arriver à être encore plus caricatural que les dialogues de Trump. Donc il faudrait forcer le trait du personnage de Trump, et qu'à côté, il y ait des contrepoids qui pourraient être ses conseillers, qui devant une de ses gaffes essaieraient après de ramener la réalité. C'est ce qui se passe.
Merci, d'ailleurs. On va essayer de s'y mettre avec vos conseils, Laurent Herzberg. D'ailleurs, on peut réécouter Trump dans des rôles de fiction. Il jouait son rôle d'homme d'affaires avant d'être président dans des films comme Maman, j'ai raté l'avion 2, Le Prince de Bel-Air ou encore Une nounou d'enfer.
That must be him. Now.
Excuse me, where's the lobby?
Down the hall and to the left.
Thanks.
Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump.
Hello. I told you not to call me on this line again. That's better.
Voilà, les rires préenregistrés, enfin, la télévision dans tout ce qu'on aime, effectivement, télévision américaine. Est-ce que c'est un président de son époque, de notre époque, en l'occurrence, Marie-Cécile Nabdu? Parce que là, on a l'impression de le critiquer en disant, il est trop outrancier, on pourrait rien en faire, d'une certaine manière. Mais il y a bien, effectivement, et Karine Thuil le rappelait tout à l'heure, des électeurs qui l'ont élu et qui vont peut-être le réélire l'année prochaine, parce qu'il ne le déteste pas, justement, ce personnage tel qu'il est.
Oui, il a son socle indéfectible de 40%. D'opinions favorables et de fans et qui sont galvanisés. Et il va jouer sa réélection uniquement sur le fait de galvaniser cette base-là pour le faire gagner dans 5-6 états clés. Galvaniser, ça veut dire les mobiliser pour qu'ils aillent voter.
Donc en forçant le trait, forcément.
Oui, en forçant le trait et sachant que il y a encore un an à venir.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de programme pour 2020. Il y a un projet de société qui est le même que 2016, hein, l'Amérique blanche, patriarcale, à défendre, qui est menacée par les évolutions démographiques inéluctables. Dans 30 ans, les Blancs d'origine européenne sont minoritaires aux États-Unis. Les méchants immigrés, les islamistes, musulmans, immigrés, tout ça c'est un peu mélangé. Les Chinois, la circulation des modèles culturels, la fin de l'industrie. Et donc ça, c'est un vague projet de société. Il n'y a pas de programme, mais... pour l'instant, mais il y a un récit. Et le New York Times disait en septembre 2019, tout ce que fait Trump doit être replacé dans le contexte suivant. Est-ce que ça contribue au récit ? Donc, imposer le narrative, imposer le storytelling. Et
on est quand même pas très loin, effectivement, de la question qu'on pose aujourd'hui, en l'occurrence.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, on parlait de romancier tout à l'heure, Bret Easton Ellis, dans American Psycho, son personnage principal, Patrick Bateman, est obsédé par Trump.
Oui, c'est vrai.
Et son nom est cité une vingtaine de fois dans le livre. Et quand on voit qui est Patrick Bateman, ce type meurtrier, homophobe, dangereux, mauvais, et qu'il est fasciné par Trump, et ça a été écrit il y a quand même un certain temps maintenant, je pense que ça a révélé ce qui allait se produire. Et c'est intéressant parce qu'on voit que d'une certaine façon, les romanciers sont prophètes.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, Joyce Ormond, dans notre détestation, ou du moins dans notre rejet de la figure de Trump, quelque chose de qui serait presque une vision chrétienne, c'est-à-dire on ne veut pas voir ce personnage-là qui est une sorte de diable sorti de sa boîte et qu'on voudrait bien voir re-rentrer dans sa boîte parce qu'il ne correspond à aucune des valeurs qu'on voudrait voir portées par un président des États-Unis ? Dans le récit nous-mêmes que nous nous faisons de ce récit raconté par les Américains eux-mêmes ?
Bah écoutez, en fait, je suis pas d'accord avec vous là.
Vous avez raison. Mais
je vois pas justement de détestation et de rejet. Je vois en réalité une jouissance et on l'incarne aujourd'hui en faisant cette émission. Ouais. Et moi, je vois bien que j'ai une certaine jouissance à entendre ces extraits. Ce qui veut pas dire qu'on adhère évidemment à sa politique. C'est même pas la peine de le préciser. Mais je pense qu'il y a cette part de jouissance qu'il faut assumer. Et
parce que c'est l'exceptionnel.
Oui, voilà, c'est le monstre, c'est un monstre en fait. Et la pulsion qu'on a pour le monstre, elle s'exprime énormément avec Trump, ce qui n'empêche pas par ailleurs d'être absolument effaré et inquiet pour l'avenir des États-Unis et du monde. Mais je pense pas du tout qu'on a envie qu'il rentre dans sa boîte. C'est-à-dire qu'on a envie pour des raisons politiques, mais on a aussi envie qu'il continue à faire le show parce que ça nous fait jouir. Ça me semble assez évident.
Est-ce que cette folie qu'on imagine derrière, mais en même temps, Marie-Cécile Nave l'a un peu douché, la folie, parce que visiblement elle est très calculée au point même que ça serait plutôt une sorte de raison pratique qu'il met en œuvre tous les jours. Cette folie, Karine Thuil, ça donnerait envie de le faire mettre en parallèle avec des personnages shakespeariens, par exemple, ou pas du tout. Et en particulier, sur la chute d'un homme, parce qu'on pense parfois à Richard III, on se dit, ben voilà, tout compte fait, ça pourrait être un très beau Richard III.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est chez lui, c'est on se dit qu'en fait, il ne peut pas chuter parce qu'il, comme il est sans limite, il serait capable, même dans sa chute, de trouver une forme de réussite. Il a un tel ego, un tel narcissisme que finalement, je crois qu'il ne chutera jamais vraiment. Il s'en sortira toujours, ne serait-ce que par son attitude toujours revêche, arrogante, sentiment qu'il a toujours raison. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, encore une fois, quand quelque chose est faux, il dit c'est vrai. Donc, il suffit de continuer à mentir. On va l'accuser, il va dire c'est faux. Il y aura des scandales, il dira tout est inventé, un scandale sexuel, il dira elle ment. Donc il est toujours dans cette attitude bravache et finalement, d'une certaine façon, il s'en sort toujours.
Et il y a tout de même quelque chose de très étrange, c'est que la patrie des scénarios, des séries et des films que sont les États-Unis ne s'est pas emparée du personnage parce que aussi il est totalement opposé à ce milieu du cinéma américain. Vous étiez à Los Angeles la semaine dernière, Laurence Herzberg. On le déteste là-bas.
Oui, et alors je dînais avec un showrunner célèbre à qui j'ai posé la question en disant lundi je suis à une émission à la radio, une émission sérieuse animée par quelqu'un d'extraordinaire.
Arrêtez.
Et sur Donald Trump, est-il un personnage de fiction ? Et sa réaction était immédiate. Alors elle est double. Elle est d'abord que tout le milieu audiovisuel de Los Angeles le déteste.
Il le déteste aussi.
Donc la première réaction, c'est de dire on n'en veut pas, on n'a pas envie de créer en plus sur ce personnage. Et après, la deuxième réaction moins épidermique était de se dire mais comment trouver le bon rapport au réel ? Toujours sachant que donc la fiction est cette exagération, ce déplacement du réel. Le réel ayant déjà été déplacé par Trump, il est là encore plus difficile d'être du coup retravaillé pour la fiction. Et il disait, Trump aurait fait un excellent personnage de fiction il y a 5 ans.
Avant d'être
élu.
Joyce Sormand, tout compte fait, on se pose cette question, mais on aurait pu se poser la question avec son prédécesseur. On n'a pas fait de grandes séries ou de grands romans à partir d'Obama en soi. Parce qu'il y a aussi la figure du président, le président qui serait parfait, parce qu'on l'a voulu parfait. C'était comme ça qu'on l'a présenté en Europe et on n'en a pas fait grand-chose non plus.
Oui, mais peut-être que précisément Obama, lui, il était trop lisse, trop parfait, trop irréprochable. Et que voilà, qu'on a peut-être comme ça deux pôles entre un idéal et un monstre. Mais c'est peut-être aussi, vous le savez mieux que moi, vous êtes spécialiste des séries, c'est peut-être aussi que finalement ces personnages politiques, ces personnages de président sont davantage solubles dans la série que dans la littérature. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, des raisons de tradition littéraire, je sais pas. Mais pour moi c'est plutôt lié à une culture. J'ai l'impression que c'est plutôt une culture cinématographique ou de la série qui vampirise ce genre de psychologie.
Oui, parce que dans votre roman Les choses humaines, Karine Tuile, il y a Clinton, il y a Trump, il n'y a pas Obama.
Non, c'est vrai. Mais il est moins inspirant. Moi, j'aime les personnages comme ça, un peu fous, totalement, totalement imprévisibles et dingues. C'est vrai que nous, en littérature, on a aussi plus de recul. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une fiction sans citer le nom de Trump, mais en imaginant finalement l'avènement au pouvoir d'un de ces hommes politiques populistes qui défend des idées presque d'extrême droite. Hein, on peut le dire, sur certains sujets, il est vraiment carrément d'extrême droite. Et ça serait assez symptomatique. On parlait du Brésil tout à l'heure. C'est assez symptomatique de tout ce qui se passe aujourd'hui dans de très nombreux pays, y compris en Europe. Et on n'est pas non plus à l'abri, nous-mêmes, hélas, d'avoir ce genre de personnage au pouvoir.
Merci à toutes les quatre, en tous les cas, d'avoir joué ce jeu, de réfléchir à cette question. Donc, Trump est-il un personnage de roman, une figure de fiction ? Merci à vous, Laurence Herzberg. Merci, Marie-Cécile Nave. Merci, Joyce Sormand. Et merci à vous, Karine Tuile. C'était Le Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Gwendoline Troyano, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Limège. À la vidéo, Valentin Bobinet. Et à la réalisation, Thomas Duterre.